Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Anna pour évoquer Nicolas Sarkozy et le jugement qui est tombé en fin d'après, en fin de matinée. Bonjour Anna.
Bonjour.
Votre premier... Ça va bien, oui. Votre premier sentiment
Et je distingue deux choses. Je distingue le point juridique qu'on peut comprendre, mais il y a aussi l'aspect moralisateur avec la quintessence de l'idéologie du juge et la façon dont il motive, enfin les mots choisis qui sont un petit peu orientés, disons.
On va développer tout cela dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a eu justement le jugement dans l'affaire Big Malion et Nicolas Sarkozy, donc condamné à 1 an de prison ferme. Son avocat l'annonce. L'ancien président va faire appel de cette décision. Reconnu coupable également, Jérôme Lavrieux. Il était lui directeur adjoint de cette campagne de 2012. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis.
Je savais que je serais condamné, je l'ai dit et répété, depuis longtemps. Je note que la présidente a reconnu qu'il n'y avait pas eu de constitution, de cagnotte, de détournement d'argent par qui que ce soit. C'est pour moi une grande victoire. Le reste, vous savez, pour l'instant, mon état d'esprit, c'est de ne pas faire appel. J'en ai marre. Je ne pense pas avoir les ressources pour continuer longtemps à faire ça. Voilà, le peuple français, par le biais de la présidente du tribunal, m'a condamné. Pour des choses que j'ai reconnues, on peut ergoter sur le quantum de la peine. Donc je vais voir.
Dans l'actualité également, la fin du masque à l'école pour les élèves de primaire, ce sera dès lundi dans 47 départements, tous ceux où le taux d'incidence est sous les 50 pour 100 000 habitants et ce depuis au moins 5 jours. Le masque qui reste obligatoire partout ailleurs et partout pour les personnels, les adultes, les collégiens, mais aussi les lycéens. Et puis face à la hausse des prix de l'énergie, Jean Castex monte au créneau. Le Premier ministre présentera ce soir une série de mesures alors que l'inflation s'accélère encore un peu plus 2,1% sur 1 an au mois de septembre. La météo, pardon. Vous oubliez la météo, honte à moi, Peggy. D'autant qu'il fait beau en plus, c'est pour nous annoncer des bonnes nouvelles.
C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait, c'est ça.
Mais non, mais pardon, il faisait frais ce matin, première gelée même, mais ce sera mieux cet après-midi.
Exactement, on a relevé 0 degré ce matin à Chaumont en Haute-Marne, ça va remonter cet après-midi à 17. 1 degré 2 à Fontainebleau en Seine-et-Marne, 2 à Nevers. Ça remonte, c'est vrai, globalement au nord, même si ça reste un peu juste. 16 à Lille et Metz, 18 à Paris, Nevers, Brest et Strasbourg, 19 degrés à Lyon, La Rochelle, 20 à Biarritz, 22 à Toulouse, 25 à Perpignan, 26 à Toulon et 28 à Bastia. Ça reste chaud évidemment près de la Méditerranée. Côté ciel, bon ben voilà, pas grand chose à signaler. C'est vrai qu'il fait très beau, c'est un temps très ensoleillé. Juste un petit peu plus de nuages sur le piémont pyrénéen et un ciel chargé, c'est vrai, annonciateur de l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais ça, ce sera pour demain sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, l'extrême nord, avec quelques gouttes possibles et du vent.
Et retour de la pluie donc demain par le nord-ouest.
Exactement, avec une perturbation active cette fois. Elle va donner beaucoup de pluie dès le matin sur la Bretagne. Un temps gris et pluvieux également entre les pays de la Loire et le nord le matin. Dans le sud et l'est, il fera beau, on en profite. Dans l'après-midi, la perturbation va progresser et gagner les régions du Poitou, le centre, l'Île-de-France, en remontant vers les Hauts-de-France. Les pluies seront soutenues avec un coup de tonnerre possible vers la Normandie et du sud-ouest au nord-est. Là, le temps restera sec, plus ou moins voilé, même très beau près de la Méditerranée. Les températures, encore frais demain matin, 2 degrés à Nevers, 3 à Nancy, 4 à Limoges, mais 10 à Paris et les maximales. Ce sera juste en demain, seulement 16 degrés à Paris. Il faut se couvrir, oui, c'est un petit peu juste pour la saison. 17 à Reims et Caen, 20 à Bordeaux, 22 à Strasbourg, 23 à Lyon, 24 à Montpellier et 26 à Marseille.
N'oubliez pas votre petite laine demain, Pascal, vous avez entendu. Hein. Merci, Peggy.
Je n'oublierai pas. Merci, Amandine, il est 13h04.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
L'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable jeudi à Paris de financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. C'était en fin de matinée. Vous êtes très nombreux à réagir et c'est souvent un sujet qui clive, forcément passionnel. Bonjour Anna.
Bonjour Pascal.
Bonjour Anna. Vous êtes avocate, c'est important de le dire parce que dans les premiers mots, on a senti une analyse juridique peut-être plus précise que, j'allais dire, l'auditeur le plus classique ou le journaliste le plus classique qui n'est pas aussi au fait que vous de ces choses-là.
Écoutez, moi, ce que je vois, ce que je lis, hein, c'est au tout début, donc j'ai pas les attendus, mais effectivement, factuellement, il y a un dépassement des comptes de campagne, ça c'est factuel. Il est évident que Nicolas Sarkozy est celui qui signe les factures, en tout cas c'est sous sa responsabilité. En tout cas, ce que je renote, c'est qu'il n'est pas retenu coupable de la double facturation, donc en fait, il n'a pas la faute de la double facturation, mais on lui reproche la responsabilité et une faute de ne pas s'être rendu compte de cette double facturation, mais ce qui fait que oui, effectivement, si la loi dit il y a un dépassement de campagne, il en est responsable, il doit être sanctionné, à la limite. Ce qui me semble plus discutable, c'est les termes que je vois écrits qui auraient été faits par Madame la juge, quand elle dit demander des shows à l'américaine, candidat désinvolte. Et là, c'est plus du droit. Là, c'est de la morale qui cache de l'idéologie et toute la quintessence de la haine vers Nicolas Sarkozy. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que la peine est certainement la maximale, parce que ça traduit, alors c'est dans le droit, mais ça traduit quand même je peux pas dénier qu'il y a une forme de punition exemplaire parce que c'est Nicolas Sarkozy, et je ne peux pas enlever ça d'une certaine idéologie. Quand je lis les termes, je me pose la question de savoir si c'est un juge ou si c'est c'est quelqu'un qui fait de la morale, quoi. Ça me dérange plus. Voilà.
Et pour aller plus précisément encore, lorsque je lis les termes, quels termes selon vous
Je vous dis, j'ai pas l'attendu, donc je ne peux pas. Mais je vois entre guillemets que la juge a dit que Nicolas Sarkozy était un candidat désinvolte, qui demandait un meeting par jour, alors en compte de campagne, pendant la campagne, bon, c'est souvent le cas, des shows à l'américaine. Alors à l'américaine, on voit aussi le prisme de bien d'autres idées de gauche, hein, on peut le dire.
Je ne sais pas si on peut qualifier quelqu'un de gauche parce qu'il dit que c'est un show à l'américaine, mais je comprends ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est pas quantifiable.
Ça transpire. Et puis le juge a le choix de, enfin dans le quantum des peines, le juge a la discrétion de la peine. Et là, on voit que c'est la peine la plus lourde. Ce n'est pas anodin.
Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que le jugement va au-delà des réquisitions. C'est factuel. C'est l'élément même, je trouve, central. C'est-à-dire que vous avez un juge qui va au-delà des réquisitions.
C'est très rare. En général, c'est le procureur, enfin le représentant de l'État qui va au-delà de.
Bien sûr.
C'est ce qu'on reproche même à la justice du quotidien. Quand on se fait agresser, l'agresseur est rarement puni à la hauteur de ce que les réquisitions sont à la hauteur des réquisitions faites. Donc là, on se demande pourquoi il y a un inversement. Alors je comprends. Puis en plus, il y a le timing aussi. Il est phénoménal le timing. Comme ça, on est sûr que Nicolas Sarkozy, même s'il a affirmé, réaffirmé, et bon, on est sûr qu'il ne pourra pas se présenter aux élections.
Alors ça, en revanche, comme il fait appel et que le prochain jugement n'est pas programmé en 2022, ça, il est aujourd'hui présumé innocent.
Oui, mais vous pensez bien qu'il ne va pas faire une... il a exprimé qu'il n'en avait pas envie. Mais même s'il en avait envie, je pense que c'est ce serait un élément qui lui serait reproché, qui lui donnerait aucune crédibilité. On sait très bien,
Là, il y a discussion. Vous savez, est-ce que les militants, est-ce que les sympathisants, est-ce que ses supporters sont attachés à ça? Là, il y a discussion. Je ne peux pas répondre à cette question. Merci en tout cas, Anna. Et en tout cas, vous allez pouvoir réagir sur ce premier sujet du jour. L'autre sujet, c'est le pass sanitaire. Il est obligatoire depuis ce matin pour les 12-17 ans. Appelez-nous si vous avez fait vacciner votre enfant. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi ? Et appelez-nous aussi si vous n'avez pas fait vacciner votre enfant. Ça serait intéressant également d'avoir, pourquoi pas, un médecin, un pédiatre qui nous donne son avis et qui concrètement voit lorsqu'un enfant est vacciné s'il a moins de risques d'attraper la maladie. Et évidemment, statistiquement, c'est une évidence. Donc nous marquons une pause et nous revenons dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et il est même 13h13.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État a été déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. Il va faire appel de sa condamnation. La réaction dans RTL Midi de Gilles Platret, le vice-président des Républicains.
On est quand même frappé qu'à chaque fois, quand il s'agit de Sarko, les juges sont plus sévères que les procureurs. Moi, j'aimerais que les juges soient plus sévères que les procureurs lorsque des petites frappes arrachent le sac d'une vieille dame ou créent des faits de violence. Donc voilà, on est juste frappé de ça et on a quand même le sentiment qu'une partie des juges déteste cet homme, mais le déteste profondément.
Comment réagissez-vous à cette nouvelle ? Nous attendons vos appels dès maintenant au standard.
Je rappelle que l'affaire Big Malion, elle date de 2012. C'est la campagne de Nicolas Sarkozy. L'UMP aurait tenté, via un système de fausses factures, avec l'agence Big Malion, de masquer les dépassements de frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy est condamné pour cette raison aujourd'hui. Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique, oui. Qui
Bonjour
habite
Pascal.
Le Mans.
Oui, je dirais que si c'était pas si triste, ça pourrait presque être drôle. Donc, alors moi, il y a un élément que... Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'Anna a dit tout à l'heure, totalement, parce qu'effectivement, il y a un jugement, le jugement du droit, mais il y a aussi le jugement de la personne. Et ça, c'est pas normal que la personne soit jugée pour ce qu'elle est. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il a déjà été condamné à rembourser les dépassements. Donc, il a déjà été condamné pour ça. Et là, à mon avis, c'est une deuxième condamnation. Et pour une deuxième condamnation, on met une condamnation qui est plus forte que ce qui a été demandé. Et alors, ce qui est génial, c'est que on dit, alors, il a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses. Alors, à part quelqu'un qui travaillait effectivement dans cette société et qui peut prouver qu'il a volontairement omis, je vois pas comment des gens de l'extérieur peuvent prouver qu'il a volontairement omis d'exercer un contrôle. Parce que moi, j'ai toujours entendu que le doute profite à l'accusé. Là, visiblement, le doute accuse encore plus l'accusé. Donc là, on est dans un truc qui est complètement ubuesque. Et clairement, effectivement, on veut le condamner. Donc on condamne le fait qu'il n'était pas présent au procès, le fait sa désinvolture. Et c'est... Alors, il a déjà été condamné.
Alors, il n'est pas venu à ce procès et c'était sa défense parce qu'à l'autre procès des écoutes téléphoniques, il avait été présent du matin au soir et à toutes les audiences. Et il avait eu le sentiment qu'il n'avait pas été entendu. Et avec son avocat, ils ont, Maître Herzog, ils ont imaginé cette fois une défense différente. Je crois que c'est même Thierry Herzog qui lui a conseillé de ne pas venir, alors que Nicolas Sarkozy était plutôt enclin à venir, et donc de ne pas se déplacer. Donc dans les deux cas, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est si je viens, je suis condamné, et si je viens pas, je suis désinvolte, je suis condamné aussi.
Exactement. Donc,
c'est ce qu'il dit. Je reprends sa défense, entre guillemets.
C'est une évidence. C'est une évidence. Alors que les dirigeants, ceux qui dirigeaient l'entreprise, effectivement, qu'ils soient condamnés, parce que eux, effectivement, étaient
vous parlez de l'entreprise de Big Malion, vous parlez de l'UMP.
Oui.
Parce que Big Malion, c'est une société de conseil en communication,
voilà,
qui avait été fondée en 2008.
Voilà. Mais quand on lit ce qu'a dit le juge, il a volontairement omis d'exercer un contrôle. Mais comment vous pouvez prouver que quelqu'un a volontairement omis d'exercer un contrôle? Non, mais c'est... Et en plus, il a une condamnation plus importante. Enfin, je suis désolée, mais il a tué personne.
Oui, mais alors ça, c'est encore autre chose. Alors, je rappelle, je pense que les gens sont un peu perdus que durant la campagne présidentielle donc de 2012, Jean-François Copé est le président de l'UMP et il fait donc appel à Big Malion, via d'ailleurs une filiale, c'était pas Big Malion qui s'appelait Event et compagnie, pour gérer les meetings du candidat.
Voilà.
Donc c'est l'UMP qui se rapproche vers cette société de communication.
Et en fait, on lui reproche d'avoir dépassé effectivement les comptes de campagne. Bon, je pense qu'il y en a d'autres qui le font. Donc c'est pas un crime. C'est pas bon. Effectivement, c'est interdit par la loi. Mais bon,
c'est pas un crime, mais c'est interdit par la loi.
Mais alors on est hyper laxiste avec des gens effectivement qui tuent, qui violent, qui. Mais par contre lui, pour des histoires d'argent. Alors moi j'en déduis quoi? Qu'en fin de compte les juges condamnent plus des histoires d'argent que des histoires de meurtre. C'est inquiétant. C'est quoi cette société? C'est quand même curieux.
C'est toujours curieux comme argument parce que chaque affaire, qui passe devant la justice est indépendante des autres, forcément.
Oui, enfin bon, là il y a un acharnement. Je suis désolée, mais bon, on l'aime pas, on veut surtout pas qu'il revienne sur la scène politique parce que là ça va lui faire des casseroles, donc c'est bien pratique. C'est comme Zemmour, allez hop, on essaye de l'éliminer. Et en plus, moi j'ai écouté hier soir. le juriste lors des pros, là, Monsieur Goldnadel, oui, l'a dit lui-même.
Alors
des
là, on reste sur RTL, mais pour tout à fait être complet sur cette affaire, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce qu'on reproche? L'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, mais où aurait mis en place un système de fausses factures et proposé à Big Malion de maquiller en fait les factures d'Event et compagnie de manière à ce que les factures soient payées par l'UMP et non pas par l'association pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous comprenez la manœuvre, oui, si j'ose dire.
Oui, oui, mais bon, comment on peut prouver qu'il l'a fait volontairement? Enfin, c'est là où il y a... c'est pas
d'abord,
à moins de l'avoir pris la main sur le fait.
Ce dossier intimement, c'est très compliqué, forcément.
Ah bah
donc,
déjà,
moi, je vous donne là les grandes lignes. Est-ce que le président de la République, il est en place à ce moment-là, a les mains dans le cambouis, pardonnez-moi l'expression, pour savoir précisément qui va payer? Qui va payer? Est-ce que c'est l'UMP ou est-ce que c'est l'association pour sa candidature? Les meetings qu'il est en train de faire, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai le sentiment, effectivement, intuitivement, que quand tu es au sommet de la pyramide, ce n'est peut-être pas toi qui t'occupe de savoir comment tu vas payer le vigile qui surveille ton meeting. Mais bon.
Quand on dit qu'il a volontairement omis d'exercer un contrôle, moi je suis désolée, on ne prend pas plus que ce qui est demandé parce qu'on décrète qu'on a volontairement omis d'exercer un contrôle. C'est très vague cette histoire-là. Donc il y a apparemment un acharnement, c'est une évidence.
Bon, en tout cas, les pro-Sarkozy crieront à l'acharnement et puis les anti-Sarkozy diront bah, il n'est pas au-dessus des lois. Et on va continuer ce débat, on va être par exemple avec Jackie, lui qui n'est pas sur votre ligne. Et ça c'est intéressant d'écouter une autre voix. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Vous réagissez depuis le début de l'émission à une actualité. Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Il va faire appel de sa condamnation. Écoutez la réaction de son avocat, Maître Thierry Herzog.
Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné. La Cour d'appel, et c'est pour ça que les cours d'appel existent, dira le droit et nous aurons alors l'occasion d'en reparler.
L'ancien président a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 3210 3210.
Nous sommes avec Jackie et ce qui est... Bonjour Jackie.
Bonjour Pascal.
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on parle d'un sujet, mais c'est très difficile effectivement à connaître précisément le dossier puisque le juge le connaît. Et convenons que nous avons nous ne connaissons pas toutes les pièces de ce dossier.
Oui, certes, mais bon, je sais pas. C'est la République. Je pense qu'aujourd'hui, un président de la République qui représente la plus haute dignité de la France, où les gens votent à ce moment-là, je pense que Sarkozy savait ce qu'il faisait. C'est un avocat déjà à la base. Il savait ce qu'il faisait, où il allait. Honnêtement, la démocratie aujourd'hui et la République sont ébranlées. Un président de la République qui est coupable, c'est grave ce qui se passe là. C'est très grave. Et que, je
d'ailleurs,
pense que
il ne l'est plus pas... depuis quelques minutes puisqu'il a fait appel. Donc,
mais comment comprendre que... Je pense que la République est ébranlée là. Et la démocratie, mais surtout la crédibilité de ces personnes-là, toutes tendances confondues politiquement.
Mais est-ce que vous savez précisément ce qu'on lui reprochait, par exemple, dans ce dossier?
Apparemment, quand la justice vous dit, monsieur, vous êtes coupable...
Oui, mais est-ce que vous savez précisément ce qu'on lui reproche? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous pareils, d'ailleurs.
Il a enfreint des choses, il a outrepassé ses droits.
Oui, mais précisément...
Cet homme-là se croit au-dessus de tout. Il est orgueilleux, il est prétentieux, il n'a aucun recul, mais je vous dis les choses.
J'ai l'impression que tout le monde a déjà un avis sur Sarkozy avant de connaître le sujet. C'est-à-dire que les pro-Sarkozy vont le défendre et les anti-Sarkozy disent il est prétentieux, il est orgueilleux comme ce que vous me dites là, et bien fait pour lui, mais qu'au fond personne ne connaît le dossier.
Bien fait pour lui. Non, mais... si vous demain vous apprenez votre voiture, vous allez à une vitesse plus qui n'est pas réglementée, on va vous présenter, on va vous dire monsieur pro, vous êtes condamné parce que vous avez fait ci et ça. Et la justice, pour moi, n'est pas la même pour les politiques que pour les citoyens.
Bah moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est peut-être plus dure pour les politiques parfois que pour le simple citoyen. Hein. Vous savez, le temps où les politiques étaient épargnés, j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui.
Ouais, mais il y a quand même un problème, Pascal. Il y a quand même un vrai problème démocratique. Et aujourd'hui, on sait plus.
Mais est-ce que vous imaginez, par exemple, que les juges puissent faire de la politique et pourquoi pas régler des comptes, parce que le quinquennat Sarkozy a été compliqué avec les magistrats et qu'il y a une forme d'hostilité qui existe. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Parce que les juges, après tout, c'est des hommes.
Ouais, je pense que c'est possible que les juges s'en prennent à lui, parce que il y a eu un moment où c'était difficile. Je peux le comprendre quelque part, mais ça n'a pas lieu d'être, ça. Il faut être transparent, il faut.
Mais la justice est faite par les hommes, Jackie. Personne n'est.
Sarkozy traîne trop de casseroles. Il y a trop de casseroles. il y a eu trop de casseroles. Et tous les policiers. Je parle pour lui, mais je parle aussi pour les autres. On a Balkany, on a eu Fillon, on a eu. Puis l'autre côté aussi, hein, dans toutes tendances confondues, des gens mis en examen, corrompus. Mais nous, Français, on fait quoi là-dedans? Je vous dis, la démocratie, la République sont totalement bafouées. Ça m'écœure. Franchement, ça m'écœure.
Mais vous votez, par exemple, Jackie, vous?
Non, c'est terminé. C'est terminé de voter.
Vous votez plus parce que vous êtes dégoûté?
Non. Ouais, je suis dégoûté. Le seul vote utile que je vais voter, ça sera pour ma machine à laver. Parce qu'au moins, elle me proposera toujours, elle, des programmes propres et honnêtes, ce que les politiques ne sont pas.
Non, mais vous comprenez que c'est difficile de généraliser.
Ouais, mais attendez, ces gens-là n'ont pas outrepassé leurs droits.
Je vous répète, par exemple, ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, et c'est ça qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a la justice qui condamne, et c'est toujours très violent, symboliquement, une condamnation à un enfer. Mais est-ce que vous savez précisément ce qu'on lui reprochait?
Il y a des comptes de campagne qui n'étaient pas normales au niveau de la 2012.
C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir dépassé des comptes de campagne.
Voilà.
Bon, mais c'est pas non plus. Tout à l'heure, je crois que c'est Véronique qui disait c'est pas un crime. C'est vrai qu'on a le droit de dire ça. C'est pas non plus un crime de dépasser des comptes de campagne. Vous voyez,
la loi est pour tout le monde.
Mais j'entends bien. Mais j'entends bien. Là, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et puis on peut aussi considérer que quand tu es président de la République, tu dois être exemplaire et que d'une certaine manière, tu peux être plus sanctionné que les autres, précisément parce que tu es président de la République. Pourquoi pas? On peut tout dire de toute façon.
Ces gens-là outrepassent leurs droits, par leur fonction, par leur notoriété, par le fait qu'ils soient avocats, qu'ils connaissent toute la loi et toutes les ficelles de ce métier. Et voilà, ils outrepassent leurs droits et je trouve pas ça normal, c'est tout. Après, de l'acharnement, non, il n'y a pas d'acharnement. La justice, elle doit être là, et pour tous les Français, politiques ou pas.
Bah merci Jackie, vous allez pouvoir rester avec nous. On va marquer une pause parce que c'est intéressant d'échanger sur un sujet qui est passionnel. Est-ce que j'ai dit bonjour à Damien Béchiot?
Du tout, Pascal.
Bon, tout va bien, Damien?
Très bien, et vous?
Écoutez, je vais vous donner les sujets du jour. Hausse du gaz, de l'électricité. Vous faites attention, par exemple, à votre facture de gaz, d'électricité. Vous savez, par exemple, combien vous payez tous les deux mois?
Non. Non. Exactement, je ne sais pas.
Ah, non, mais c'est intéressant. Et, moi, je regarde, mais c'est vrai que ça augmente fortement. Donc ça sera un de nos sujets. On attend ce que dira ce soir d'ailleurs Jean Castex pour relancer, pourquoi pas, ou donner un peu plus de pouvoir d'achat aux Français. Et puis en fait, on trop sur le pass sanitaire qui est obligatoire depuis ce matin. Puis j'ai un autre sujet que j'ai découvert, que vous avez peut-être vu dans la presse. À Lyon, les cantines scolaires, le cordon bleu ne sera plus servi.
Et pourquoi ça?
Mais parce que c'est pas écologique. C'est le maire de Lyon, monsieur Doucet, qui a décidé qu'il ne fallait plus manger du cordon bleu. Je ne sais pas si vous aimez le cordon bleu. Les enfants aiment beaucoup généralement le cordon bleu.
Est-ce que Olivier Guénec aime le cordon bleu?
Ah bah, on peut lui poser la question, mais après la pause.
Bien sûr.
Bien sûr. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, c'est vrai que le prix de l'électricité augmente, on pourrait d'ailleurs tous faire des économies.
Ben oui. Non mais ouais. Alors, il y a des gestes tout simples en plus pour la consommation.
Ah ben voilà, voilà. Ça c'est Damien Béchiot. On vient de... Alors je l'ai dit pour les dirigeants d'RTL, nous venons de baisser l'électricité du studio Donc je pense,
des économies.
Je pense qu'on dépense moins de kilowatt-heure. On est dans le noir.
On ne voit plus grand-chose d'ailleurs.
Mais c'est pas, mais il n'y aura pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc là, je le dis pour les gens qui nous regardent sur Internet. Nous avons, pendant quelques secondes, baissé le studio pour faire des économies, parce que c'est de plus en plus cher.
Ouais, mais c'est chaleureux.
Ah, bah là, c'est revenu. Bah non, là, on n'a rien gagné. La mesure de l'électricité, c'est le kilowatt-heure. Et la mesure du gaz, est-ce que vous connaissez la mesure du gaz? Eh bien, c'est aussi le kilowatt-heure.
Merci Pascal.
Ouais, c'est une info pour briller au
dîner. Bien sûr, bien sûr.
Hausse du gaz, vous l'avez dit, de l'électricité, des carburants, tout augmente et ce n'est sans doute pas terminé.
Quand on interroge Bercy, on s'attend à une hausse des prix du gaz du même niveau, environ 12% en novembre et en décembre. Le 1er février prochain, il y a la hausse des tarifs de l'électricité. Et là aussi, Barbara Pompili s'attend à une augmentation de 12%, elle l'a dit ce matin.
Le Premier ministre Jean Castex doit présenter ce soir une série de mesures. Votre pouvoir d'achat a-t-il diminué? Sébastien Rouxel a rencontré Cheryl, 26 ans, et Jean, 32 ans, un jeune couple qui habite près de Montargis dans le Loiret. Tous les deux, employés d'une mutuelle, touchent le SMIC.
L'objectif ce mois-ci pour nous, c'est d'être seulement à moins 500 là, au moment de la paye. Enfin, c'est pas zéro, c'est moins 500. Tous les jours, on est obligé de penser à l'argent.
Dernièrement, on a eu donc une voiture qui est tombée en panne, donc on a dû sortir 500 euros. Du coup, depuis deux mois, on ne mange pas de fromage et j'en ai très envie pourtant.
Quel est le montant de vos factures d'électricité, de gaz? Combien vous coûte un plein de carburant? Le pouvoir d'achat doit-il être la priorité de la présidentielle? Nous attendons vos témoignages dès maintenant au 3210.
Et ça, ça va être vraiment un sujet passionnant, le pouvoir d'achat, parce qu'on a le sentiment, effectivement, qu'il baisse d'année en année. Nicolas Sarkozy, Jackie, on a terminé avec vous?
Oui, je vous remercie d'avoir donné l'antenne.
Ben non, je vous en prie, vous êtes cuisinier, je le rappelle, donc vous êtes peut-être en plein service en ce moment?
Non, je suis en repos aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous appeler.
Oui, je me doutais voilà. Un peu, ma question donc, était un peu sotte, parce que si vous étiez en plein service, en train d'appeler, vous auriez peut-être fait.
Juste un petit aparté, j'adresse toute mon amitié à Laurent.
Laurent Tessier, vous le connaissez bien?
Je le connais, on a été en relation pendant un moment et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de bienveillance.
Et ben voilà. Vous avez raison.
Merci beaucoup, Jackie, ça me touche.
Et vrai, et vous avez raison et cette bienveillance est partagée par tous ceux qui le connaissent dans la maison.
Voilà.
Merci, Jackie.
Merci à vous.
Rock est là. Bonjour, Rock.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes agriculteur.
Tout à fait.
Et vous habitez dans quelle région?
J'habite à Saint-Symphorien-d'Ozon, au sud de Lyon.
Et vous êtes spécialisé dans quelle agriculture?
Oula, c'est une plante magnifique, c'est le cresson. C'est une petite salade, mais qui est bien plus qu'une salade.
Le cresson.
Voilà.
Donc, vous vouliez réagir sur la sanction qui frappe Nicolas Sarkozy.
Voilà, alors je répondrai en deux points. Le premier, c'est que en France, effectivement, il y a une justice à deux vitesses. Sarkozy subit a priori un acharnement judiciaire depuis bientôt 10 ans. Et cette peine paraît sévère eu égard à ce qui lui est reproché. Et je prendrai en comparaison, je ne sais pas si vous savez, on a commémoré l'assassinat de Victorine d'Artois ce week-end. Et bien l'assassin de Victorine d'Artois, j'en profite pour rendre hommage à elle, à sa famille, avoir une pensée, une prière pour eux. Et bien son assassin, à 25 ans, il avait été condamné 10 fois pour délit routier, vol avec violence, affaire de stupéfiants, cambriolage, port d'armes. Et pour tout ça, successivement, il avait eu des aménagements de peine. Si la justice avait été juste, sérieuse, rigoureuse, et ce criminel serait en prison et Victorine serait toujours en vie. Je pourrais prendre le même exemple pour les assassins d'Adrien Pérez qui avait été tué à Grenoble, il me semble. Et donc ça montre bien qu'il y a une justice à deux vitesses, bien que les affaires soient différentes.
C'est difficile de comparer. Moi j'entends ce que vous dites et même beaucoup de gens font ce raccourci, mais c'est vrai que les deux faits ne... Il n'y a aucun rapport.
Oui, il y a aucun rapport. Mais si vous voulez, si on tire à grands traits, comme vous, des fois vous le faites souvent à l'heure des pros, ou sur RTL, c'est juste, le peuple de base, il a quand même ce sentiment-là. Et deuxièmement, pour une analyse un peu plus politique, Sarkozy, durant sa campagne en 2017, il a gagné sur un discours, j'allais dire, zémourien ou lepéniste. Or, après, en gouvernant par peur des représailles de la gauche, en n'assumant pas ses convictions, il a trahi les Français, il a pris des ministres de gauche, etc. Il a trahi les Français qui lui avaient fait confiance et il a grandement contribué au déclin et à la décadence de la France. En fait, pour la gauche, on n'est jamais assez à gauche. Et il a eu le discours, mais il n'a pas agi en cohérence avec son discours. Et malgré ça, la gauche, la justice, d'habitude laxiste de gauche, devient sévère et impitoyable envers lui.
Mais je disais triste, tout à l'heure, vous connaissez par exemple le dossier, ce qu'on lui reprochait précisément, où vous regardiez ça, ce qui serait bien normal d'ailleurs d'assez loin, et c'est un dossier qui est tellement technique qu'il n'est pas... faut s'y plonger un petit peu pour connaître les tenants et les aboutissants.
Oui, mais c'est dans la campagne de 2012, ils avaient fait une sorte de combine juridique pour que des factures soient payées par une entreprise qui n'était pas celle qui organisait la campagne ou quelque chose comme ça.
Donc là, vous aviez quand même suivi de près l'affaire.
C'est peut-être pas très bien, il y a une faute, effectivement, nul n'est... Enfin, tout le monde doit respecter la loi, mais j'ai envie de dire, c'est pas excessivement grave. J'entends que c'est une faute, il aurait dû être condamné, payer une amende, etc. Mais de la prison ferme pour ça, alors que, comme les exemples que je vous ai pris tout à l'heure, des gens sont toujours des aménagements de peine et on a l'impression que la justice est laxiste. Il y a une réelle opposition entre ces différentes entre ces différents rendus de justice. Quoi.
Ben merci Roch. Vous étiez le dernier auditeur a priori à évoquer le sujet Sarkozy. Il est 13h38 et comme tous les jours, nous allons voir Olivier.
Eh oui.
À la page Facebook.
Exactement.
Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal.
Le cordon bleu. Je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle qui m'a vraiment beaucoup intéressé parce que je la trouve révélatrice du moment présent.
Ah mais c'est très très bon.
Ben, c'est qu'est-ce qui est bon?
Ben, le cordon bleu.
Ah oui, vous aimez ça?
Ben, pas vous.
Ben oui, mais vous pourrez pas en manger à Lyon dans les cantines scolaires.
Je continuerai à en acheter au marché, c'est ce que je fais toutes les semaines.
Ben, de toute façon, vous n'allez plus dans les cantines scolaires.
Non, plus de cantines scolaires pour moi, non. Bon, j'ai passé l'âge.
Oui, c'est entendu. Mais c'est au cours d'une rencontre avec des journalistes en marge du conseil municipal d'aujourd'hui que Gauthier Chapuis, qui est le conseiller délégué à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire, l'a confirmé. Alors voilà ce qu'il a dit, le cordon bleu est un peu le fer de lance des produits alimentaires ultra transformés et à ce titre, il n'a plus de raison d'être dans les menus des élèves lyonnais.
Très bien.
Qu'en pensez-vous ?
Eh bien écoutez, Pascal, moi tant que je peux avoir mon cordon bleu au marché... Ah oui, non mais moi je ne pense qu'à moi, non mais c'est sûr. Hein.
D'accord.
Voilà, merci
pas
beaucoup.
Pas étonnant ça, je vous en prie.
Bon, vous allez, avez autre chose à nous dire ?
Non, mais écoutez Pascal, tout va bien. Les factures d'électricité, je m'en occupe pas, donc voilà, j'ai plus rien à dire.
Mais je vous interviens. Il y a personne qui a parlé sur Facebook.
Les réseaux sociaux, on y va,
oui.
Non.
Parce que là, je vous appelle pour ça quand même.
Ah oui, mais j'avais l'impression que vous aviez plus envie, donc j'ai eu une petite crainte.
J'ai plus envie. Comment vous me parlez? J'ai toujours le désir de vous écouter.
Bon,
Olivier.
C'est top. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Sur nos réseaux sociaux,
vous
pour
êtes très
Franck.
Étrange.
Ah bon, bah c'est gentil. Quel compliment. Pour Franck, les juges sont automatiquement plus sévères quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. Dans le même sens, Marilyn nous dit ils feront toujours tout pour éviter un retour de l'ancien président à la tête du pays. À l'inverse, Martin écrit il paie aujourd'hui son mauvais quinquennat. Et on conclut avec Marc, je pense que cette affaire est très loin d'être finie.
Alors, est-ce qu'on peut écouter le président Macron? Parce que c'est un fan du cordon bleu.
Comme Olivier Guénet.
Moi j'aime bien le cordon bleu là.
Avec le menu enfant.
C'est le menu enfant, effectivement. Bon bah écoutez, merci.
Ça lui fait un point commun avec Olivier?
Je ne sais pas. Il est 13h40, on va marquer une pause. Le pouvoir d'achat nous intéresse. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Vous pouvez réagir à d'autres actualités. Nicolas Hulot, pris à partie par un groupe de féministes. L'ancien ministre participait hier à une conférence des Assises du journalisme à Tours. Des personnes ont alors investi la scène, tenu des banderoles, brandi des pancartes qui visaient Nicolas Hulot. Des militants venus rappeler à l'ancien ministre les accusations de viol à son encontre en 2008. Il leur a répondu.
Et voilà ce que le procureur de l'époque a dit. Les faits dénoncés en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis. Ça a été jugé par la justice. Non, madame, venez voir. Madame, je vous demande, au lieu de... Madame, je vous demande de venir me voir. Ça a été jugé. Justice, je ne crois pas aux tribunaux médiatiques.
Si vous souhaitez réagir, 3210, 3210. La scène s'est passée hier à Tours.
Et en plus, c'était pour les assises du journalisme.
Du journalisme, exactement.
Et Nicolas Hulot était présent. Nous sommes avec Rebecca. Rebecca, bonjour Rebecca.
Bonjour Pascal, ça va?
Eh bien, ça va, c'est la première fois que vous nous appelez là, en cette saison?
Ben oui.
Je me souviens.
J'ai essayé en début de septembre, mais je n'ai pas réussi. Et là, voilà.
Alors, si j'ai bonne mémoire, vous êtes fleuriste et vous bossez plutôt le week-end sur les marchés.
Exactement.
Eh bien, je me souviens, effectivement. Et vous avez plusieurs enfants.
C'est ça. Et on travaille pour votre retraite.
Oui. C'est la retraite. Je suis pas sûr qu'on l'aura. Vous avez la retraite. Et je ne sais pas à quel niveau on sera. Bon, Rebecca, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer votre pouvoir d'achat à vous.
Alors, nous, moi, je vais vous parler de mes clients.
Oui.
Donc, mes clients, effectivement, le mois de septembre a été catastrophique. Parce que déjà, il y a la rentrée scolaire. Il faut habiller les enfants, il faut les fournitures scolaires qui ont énormément augmenté. Mmh. Plus les enfants grandissent, plus les fournitures sont chères, parce qu'ils ont besoin de plus de choses au collège, au lycée, tout ça. Il y a ça. Il y a eu les vacances. Les clients se sont lâchés, ce qui est tout à fait normal. Pendant un an et demi, ils ont été brimés, ils n'ont pas pu sortir, pas de restaurant, pas de cinéma, pas tout ça. Là, on a ouvert les vannes de choses qui est logique. Mais le problème, c'est que les salaires n'augmentent pas. Et la vie augmente.
Qu'est-ce qui augmente selon vous ?
Tout.
Ben pas tout, justement. Il y a des choses qui coûtent moins cher. Je disais l'autre jour avec une auditrice, par exemple, les habits, ça coûte moins cher, sans doute dans un budget qui a 20 ou 25 ans.
Oui, mais plus pour très longtemps, parce que le coton a augmenté.
Parce que vous avez aujourd'hui des robes, des jeans, parfois, moi je suis frappé d'ailleurs, à 15 euros, 10 euros, vous habillez avec des gens parfois qui sont très très bien, des choses qui sont très très bien, qui sont à des prix moindres.
Oui, j'en doute pas une seule seconde, mais tout augmente.
Moi, je vois. Alors qu'est-ce qui augmente selon vous principalement?
Et... Alors, bah, le fuel,
oui.
La vie en général, pour se nourrir, ça coûte cher. Si vous voulez bien manger, ça peut coûter un petit budget quand même.
Vous faites un budget, vous, chaque mois, Rebecca ?
Oui, j'essaye de faire attention.
Mais vous savez, par exemple, vous êtes combien le soir ou à dîner chez vous ? 6. Vous savez combien chaque soir vous coûte le repas que vous préparez ?
Non, je calcule pas vraiment. Parce qu'en fait, j'achète mes produits au marché. D'ailleurs, je félicite Olivier d'acheter ses courses au Pont-Bleu au marché.
D'acheter, c'est, Olivier, c'est...
Cordon bleu.
C'est cordon bleu. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous savez le budget mensuel que vous consacrez à l'alimentation pour 6? C'est un gros budget, j'imagine.
Oui, bien sûr. Et puis en plus, mes enfants, ils grandissent, donc ça devient des œuvres.
Mais est-ce que vous savez ce budget?
Non.
Et le budget vacances, par exemple, cette année, il a été plus faible que l'année dernière?
Un petit peu. On a fait plus d'attention.
Et par exemple, là, on est. Alors, c'est un peu tôt pour parler de Noël, mais lorsque vous projetez sur les cadeaux de Noël que vous ferez aux enfants, vous pensez que vous aurez un budget moindre ?
On va faire plus attention, bien sûr.
Votre salaire, il n'augmente pas ?
Non. Ah non ?
Il est stable ou il.
Il varie. Il varie selon les mois, mais il est. Il augmente pas. Là, le mois de septembre est catastrophique. Hein. On va pas se mentir. Hein.
Ouais. Mais il est traditionnellement catastrophique, le mois de septembre?
Non. Alors, il est catastrophique, mais cette année, plus particulièrement.
Parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas un mois à fleurs, parce que les gens reviennent de vacances.
Non, exactement, c'est pas un mois
à fleurs. Parce qu'on est d'accord que les fleurs, c'est quand même un objet. Une fois que tu as tout payé, tu achètes des fleurs.
C'est ça. C'est un achat impulsif.
Oui.
Et c'est un achat s'il reste de l'argent dans le porte-monnaie.
Oui. Donc, c'est plutôt une clientèle aisée, j'imagine, qui achète des fleurs.
Oui. Mais après, on peut toucher aussi la clientèle. On peut vendre une rose, on peut faire plaisir. On peut avoir un achat plaisir pour quelques euros. On n'est pas obligé de dépenser des 50, 60, 80, 100 euros. On n'est pas obligé.
Ah non, mais ça, c'est très cher, 50, 60. Mais
bien
effectivement,
sûr.
La première rose, une rose, ça coûte combien ?
Bah, il faut compter 2 euros, 2,50 euros.
Mais il y a des gens qui achètent une rose ?
Oui. Bah oui, le petit amoureux, le jeune qui amène le croissant le dimanche matin à son amoureuse, il lui offre une rose.
Il lui offre une rose. Bon, bah écoutez,
parce que les jeunes n'ont pas les jeunes, c'est triste, mais là j'écoutais là, le couple de jeunes, ils sont à moins 500 euros tous les mois. C'est catastrophique, c'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, les salaires n'augmentent pas, il faut augmenter les salaires.
Là-dessus, on peut tous se rejoindre sur cela. Merci beaucoup, Rebecca. Jean-Alphonse Richard est là. Je suis venu sans fleurs, mais il nous dira tout à l'heure le.
Je vais voir si je vous envoie sur les roses ou pas. Parce que...
Vous envoyez la pub ?
On va envoyer en tout cas la pause. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Une question qui peut vous faire réagir au 32-10. En fait-on trop sur le pass sanitaire? Il est obligatoire depuis ce matin pour les 12-17 ans. Les adolescents doivent désormais présenter leur pass pour de nombreuses activités, le cinéma, le restaurant, la piscine. Mais est-ce vraiment indispensable? Christelle Gras-Le-Guen, la présidente de la Société française de pédiatrie, était l'invitée de RTL ce matin.
C'est sûr qu'à ce stade de la pandémie, on a l'impression qu'on arrive un peu après la bataille. Il faut arrêter de stigmatiser les enfants, les adolescents, comme moteurs de cette pandémie. La dynamique de la pandémie, on l'a vu, elle a explosé en plein été alors que toutes les écoles étaient fermées. Je pense qu'on a déjà beaucoup sollicité la jeunesse pour lutter contre cette pandémie et que maintenant, il faut les laisser reprendre leur vie d'enfant.
Le pass sanitaire, stop ou encore, 3210, 3210.
Nous sommes avec Sarah pour le moment sur le pouvoir d'achat. Bonjour Sarah, vous habitez Avignon.
Oui.
Est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans la vie professionnelle, Sarah ?
Alors, à la base, je suis... Bonjour Pascal. À la base, je suis employée de banque et j'ai arrêté il y a un an et demi pour des raisons personnelles. Mais j'ai fait ce métier-là pendant 20 ans. Donc, le pouvoir d'achat, bien évidemment, ça me parle. Maintenant, vous avez demandé si le pouvoir d'achat avait baissé. Oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce qu'en fait, il y a... Enfin, je pense qu'il faut le prendre sous deux angles. Non, parce que il y a 30 ans peut-être, peut-être un peu moins, un peu plus, nous n'avions pas, enfin nos parents n'avaient pas de téléphone portable en charge, tout ce qui est internet, un ordinateur, des téléphones portables, etc. Donc il y a des nouveaux besoins qui ont été créés.
C'est le budget dit contraint.
Oui, exactement.
C'est ce qu'on appelle le budget contraint.
Et du coup, on se retrouve à avoir des charges supérieures. Même si les salaires augmentent, ça ne compense pas ces nouvelles charges, en fait. Donc forcément, il y a aussi autre chose, hein, mais ça, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, mes parents avaient un potager. Il y a de moins en moins de personnes qui ont des potagers, et ça mettait du beurre dans les épinards sans faire de mauvais jeu de mots. Donc il y a tous ces éléments mis bout à bout qui font que les gens ont l'impression d'avoir moins de pouvoir d'achat. Mais en fait, c'est leurs dépenses qui augmente et les gens ne veulent pas faire de sacrifices, ni se restreindre, ni quoi que ce soit. Et moi, je l'ai vu avec les années, quand j'ai travaillé en agence bancaire, les mentalités ont changé. Et c'est vrai que être en débit, ça posait problème à personne, alors que nos parents ne l'étaient jamais. Gérer un budget, ils ne savaient plus du tout ce que c'était. Là, c'est de pire en pire, en fait, en avançant dans le temps. Et par contre, c'est vrai qu'il y a certains postes qui ont augmenté, comme par exemple l'essence. Moi, je le vois à titre personnel, j'ai un SUV. En fonction des périodes, j'ai 15 euros de plus par plein quand il y a une augmentation importante. Donc, j'ai déjà passé de 65 à 80 euros le plein, ce qui est énorme.
Restez avec nous, Sarah, parce qu'il est 13h56 et vraiment, votre témoignage est très intéressant. Mais on va faire une parenthèse avec Jean-Alphonse Richard, comme tous les jours, parce que c'est l'heure des crimes, l'heure du crime.
J'espère qu'il n'y en a qu'un seul.
Ah, parfois, il y en a plusieurs,
Parfois, il y en a plusieurs.
Mais là, aujourd'hui, c'est du ou des ?
C'est du. C'est dû, mais avec plusieurs intervenants. C'est l'affaire Amanda Knox, je ne sais pas si vous en souvenez, en 2007, cette étudiante américaine, ça a fait un bruit épouvantable.
Bien sûr.
C'est passé en Italie, à Pérouse, on va la surnommer la Luciferia au visage d'ange. C'est dire, voyez un petit peu la réputation de cette fille. Avec son petit ami, ils vont être accusés d'avoir tué une colocataire dans des circonstances abominables. Il va y avoir 8 ans de procès, une affaire qui va défrayer la chronique aux États-Unis, en Italie, puis en Angleterre aussi. Puisque la victime est britannique. Est-ce que Amanda Knox est une meurtrière ou bien est-ce qu'elle est victime finalement de la morale, d'une réputation fabriquée de toutes pièces ? Ça va être au cœur de cette affaire. Et des années après, il y a toujours des questions qui se posent.
Et ces questions, on les posera tout à l'heure. Il est 13h57. On va marquer une pause avec le flash dans une seconde. Et puis, on continuera avec Sarah sur le pouvoir d'achat. On parlera également du pass sanitaire. À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes.
Avec quelques secondes d'avance, il est 13h59 et 40 secondes. Le flash, Agnès Bonfillon.
Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation à un an de prison ferme. Il a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012, la fameuse affaire Big Malion. Le tribunal correctionnel a également reconnu coupable les 13 autres coprévenus. Ils écopent de 2 à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis. Autre condamnation, c'est une information de notre journaliste Mickaël Lefebvre à l'instant. Condamnation d'un supporter niçois qui avait visé le joueur de l'OM, Dimitri Payet, début septembre. 12 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade, donc pour l'homme de 28 ans. Il échappe aux 6 mois de prison ferme requis par le procureur. À partir de lundi, dans les écoles primaires de 47 départements, le port du masque ne sera plus obligatoire. En revanche, il le reste quand le taux d'incidence est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. C'est justement encore le cas dans 54 départements actuellement. Dans la Loire, 260 personnes priées de se refaire vacciner. Elles ont reçu des injections périmées en dépassement de date allant de 2 à 16 jours, explique l'Agence régionale de santé, qui précise toutefois qu'aucun risque n'est identifié. En revanche, eh bien, cette efficacité pourrait être moins bonne. Une inspection va être diligentée pour savoir à quel niveau il y a eu défaillance. La météo. Les températures, vous l'avez sûrement remarqué, sont plus fraîches aujourd'hui, mais à part près de la Manche, c'est une journée bien ensoleillée. Mieux vaut en profiter, ça ne va pas durer. Demain, ça va se dégrader sur le nord-ouest. Pluie dès le matin, au fil des heures, ce front pluvieux va se décaler vers l'est. Ailleurs, cela restera instable, à part sur les bords de la Méditerranée. Là, ce sera du soleil. Demain matin, côté température, prévoyez 7 à Belfort, Chalon-sur-Saône ou Aurillac, 11 à Toulouse, 14 à Nantes, 16 à Perpignan et jusqu'à 19 à Nice. Le résultat des courses à Auteuil, il fallait jouer l'As, le 9, le 11, le 16 et le 4. L'As, le 9, le 11, le 16 et le 4. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et on était avec Sarah qui évoquait le pouvoir d'achat qui est en baisse. Et c'est toujours intéressant de savoir précisément de combien il peut baisser. Est-ce que vous achetez moins aujourd'hui que vous achetiez peut-être il y a 12 mois ou 24 mois, sachant qu'entre-temps, vous ne travaillez plus. En tout cas, vous avez quitté votre emploi.
Oui, tout à fait. Mais bon, comme je n'ai jamais été au chômage, ne serait-ce qu'un jour dans ma vie, ben, j'ai un chômage qui est correct, hein, on va pas s'en plaindre.
D'accord.
Ça fait toujours très bizarre de toucher le chômage, mais bon. Oui, je disais simplement que ce qui me perturbe le plus, c'est que lorsqu'on entend les gens parler, l'auditrice précédente, c'est que l'impression générale, c'est que le pouvoir d'achat baisse. Et clairement, si vous regardez les chiffres de l'INSEE cette année, c'est pas ce qui est prévu. Ça, c'est la première chose. Et il y a vraiment le ressenti global qui est juste lié à un manque, entre guillemets, de sacrifice. Les gens ne veulent plus de frustration.
Vous avez bougé depuis tout à l'heure, manifestement, Sarah.
Ah non, enfin, je me suis juste un peu... J'ai bougé de 100 mètres.
Ah ben bah, oui, mais ça, voilà, là, ça passe mieux que ça passait. Donc, on a mal compris ce que vous disiez à l'instant. Donc,
tout est OK.
Voilà, là, c'est bien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faisiez en plus il y a un an et que vous ne faites plus aujourd'hui ?
Écoutez, avec le Covid, c'est vrai qu'on sort. Avant le Covid, on sortait plus en spectacle, etc. Mais ça n'est pas des choses obligatoires. Mmh. Maintenant, s'il y a les moyens, on sort, on fait des spectacles ou des ciné ou ce que vous voulez, hein, ce qu'on appelle la culture. Sinon, on le fait pas. Et on n'est pas mort pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours difficile à quantifier une baisse de pouvoir d'achat. C'est pour ça que ce qui m'intéresse.
C'est pour ça que c'est un ressenti. C'est très subjectif, hein, une baisse de pouvoir d'achat.
Bah, oui ou non. Parfois, si on ne peut plus aller en vacances, si on ne peut plus aller au restaurant, c'est pas dans le ressenti.
Oui, Pascal, mais moi, mes parents n'allaient pas au restaurant. Ils allaient en vacances une fois tous les 4 ans. Et voilà. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller en vacances tous les ans ou deux fois par an. C'est ce que je dis, hein, c'est que les gens veulent tout faire, quels que soient les moyens. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas les moyens. on se restreint, point. Et ça, c'est vraiment une mentalité qui a complètement changé. Je peux vous dire, en 20 ans, j'ai vraiment vu l'évolution, dans le mauvais sens, malheureusement, où il y a, ils veulent, que vous gagnez 1000 ou 10 000 euros, ils veulent avoir accès aux mêmes choses.
Ça mais n'est oui, pas mais alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, Sarah. Parce que moi, je me souviens avoir lu une romancière américaine qui expliquait la société et qui expliquait précisément combien c'est très difficile aujourd'hui d'être sans revenu ou pauvre par rapport à la vie d'il y a 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait comment les riches vivent. Ce qui n'était pas vrai il y a 50 ans. Donc, quand vous êtes en difficulté financière, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ne pas pouvoir m'acheter la voiture dont j'ai envie, pour ne pas acheter à ma fiancée ou à mon chéri ce que j'ai envie, pour ne pas pouvoir payer à mes enfants le sport ou les vêtements, ou etc. Et c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile sans doute aujourd'hui, entre guillemets, d'être pauvre que ça ne l'était il y a 80 ans, pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait comment les gens qui ont de l'argent vivent et comment ils le dépensent.
Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pascal. Je viens d'une... Mes parents sont immigrés d'Afrique du Nord. Hein. Donc, si vous voulez, nous, quand ils sont arrivés, on était pauvres et j'ai grandi en étant pauvre. La seule chose qui m'a poussée, c'est l'école, en me disant, bah voilà, les gens vivent comme ça, j'aimerais vivre comme eux. Je m'en suis donné les moyens comme je le pouvais, ça m'a plutôt bien réussi. Voilà, à un moment donné, et ben voilà, on n'est pas tous égaux malheureusement. On a parfois des difficultés, parfois non. Je peux d'autant plus vous en parler que on est une fratrie de 7 enfants, plus nos parents, on était 9. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le potager, ben il servait pour toute l'année. Les légumes, ben, ça nous permettait d'avoir un congélo plein en hiver et de pouvoir. Tout était calculé. J'allais presque dire au gramme près. Alors bien sûr, on n'avait pas accès ni au théâtre ni à quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Une fois qu'on était plus grand, on a pu se les payer. Mais vous pouvez pas vous comparer à des gens qui ont essayé. Mais vous avez toujours plus riche que vous.
Oui,
hein,
non, mais j'entends ça.
Et cette plainte perpétuelle, non, je suis pas d'accord. Mais bon.
Ben merci. Merci en tout cas de votre témoignage. Olivier est toujours là. Olivier sur la page Facebook. Voilà un sujet intéressant.
Exactement. Sur nos réseaux sociaux, Eric nous écrit « Mon pouvoir d'achat très nettement diminué en 5 ans, ça devient horrifiant pour Marilyn également. »
Horrifiant ?
Horrifiant, oui, ce sont des termes, Pascal, je les retranscris. Pour Marilyn également, j'ai beaucoup...
Ça se dit horrifiant ?
Bah, ça se dit encore, il me semble. Mmh. Après, si vous voulez pas que je passe mon point, vous me le dites, Pascal.
Non, non, mais il n'y a pas de souci. Allez-y.
Pour Marilyn également, j'ai beaucoup de mal à assumer le coût des factures de gaz et d'électricité, nous dit-elle, et on termine avec Pauline. « Le pouvoir d'achat devrait être un thème prioritaire de campagne, ce sujet n'est pas assez mis sur la table. » Parler politique.
Horrifiant qui horrifie.
Horrifiant, exactement.
Exactement, c'est un adjectif. Quelques secondes de pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, vous donnez peut-être cette information tout à l'heure que vous ne connaissiez pas. Lors de la 14e édition des Assises du journalisme qui se tient à Tours cette semaine, Nicolas Hulot a été pris à partie par un groupe de personnes qui se revendiquent féministes et écologistes lors d'une conférence intitulée « Urgence climatique et sanitaire, responsabilité journalistique ». C'était mercredi, c'était hier. Et au moment où les protestataires ont investi la scène où se déroulait la conférence, tenant des banderoles et messages visant l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, sur une affaire de viol révélée en 2018, celui-ci a tenu à clarifier la situation, disant que le procureur avait classé cette affaire sans suite. Vous vouliez réagir sur ce sujet, et c'est David, qui est directeur de l'EHPAD, qui a assisté au débat public avec Nicolas Hulot, qui voulait intervenir. Bonjour David.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous.
Merci. J'étais présent moi, hier soir, effectivement, donc à ce débat. Le sujet m'intéressait à la fois pour découvrir les différents échanges qui allaient avoir lieu, et puis effectivement, la présence de Nicolas Hulot est toujours très intéressante. C'est une personne engagée, etc. Le débat a démarré, et puis effectivement, donc au bout de quelques minutes, ces activistes militantes, effectivement, sont intervenues. Donc là, ça a été un peu le branle-bas de combat dans la salle. Et puis, bon, très vite, malgré tout, quand même, le service d'ordre a réussi à accompagner ces personnes vers la sortie. Mais bon, ça quand même, on a bien vu que les différents participants avaient été quand même un peu perturbés. Et voilà, à ce moment, dans un premier temps, Nicolas Hulot a dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi, je m'en vais, ma place n'est pas là, je ne veux pas perturber la soirée. Bon, finalement, d'ailleurs, le public a réagi pour qu'il reste. Les personnes sont donc parties, mais au bout de quelques minutes, on a entendu des personnes qui étaient sans doute devant la salle, dans la rue, et qui criaient, revendiquaient. Enfin, on n'entendait pas très bien, mais néanmoins, on savait ce qui se passait dehors. À ce moment-là, Nicolas Hulot a de nouveau eu la parole dans le débat, et il a effectivement dit, bon, bah, écoutez, moi, je suis un être humain. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas accepter de telles choses. Et il a donc quitté la salle. De ce fait, le débat a perdu une grande partie de sa substance. De nombreux participants, enfin des spectateurs sont partis aussi. Et en réalité, le débat, voilà, a tourné très court. Ça a été un fiasco un peu quelque part, puisque c'était la tête d'affiche.
Et vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que cette affaire a été classée sans suite.
Oui,
on a entendu tout à l'heure Nicolas Hulot. Lorsqu'il dit « moi je fais confiance à la justice de mon pays et pas à la justice médiatique », on ne peut que lui donner raison. Il n'y a qu'une en France instance qui est capable de juger des faits, c'est la justice.
Oui. Moi, ce que j'en pense, c'est que il y a des endroits pour. Alors, on peut être activiste de telle ou telle, enfin, ou militant pour telle ou telle cause. C'est très bien. Ça fait des fois avancer les choses. Mais il y a des moments pour tout. Là, c'était pas l'objet. Il venait, il se déplaçait. En province, on n'a pas toujours la chance d'avoir des personnes de ce niveau-là qui peuvent apporter leur éclairage. Et peu importe si on est d'accord ou pas avec lui. Là, de fait, tout a été. Moi, j'étais heureux. Je suis allé avec mes deux filles, qui ont 18 et 19 ans. J'étais heureux de pouvoir partager, voilà, les accompagner.
Ça se passait où, à Tours?
Les assises du journalisme se passent à différents endroits. Là, on était dans une salle de l'université. C'est une salle qui doit contenir à peu près 300-400 personnes, je pense.
Et la salle était pleine?
Oui. Enfin, alors, en fait, il y a eu deux débats. Il y avait un premier débat où là, la salle était bien pleine. Lorsque le deuxième débat a démarré, où là, Nicolas Hulot était là, la salle était un tout petit peu moins pleine. Mais en tout cas, voilà, les Tourangeaux avaient répondu par leur présence. Oui.
Ben merci. C'est une affaire, évidemment, qui nous intéresse également, en tout cas qui a fait réagir les auditeurs. Merci beaucoup, David. Nous allons terminer cette émission en évoquant le pass sanitaire. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous le savez, Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, l'ancien chef de l'État a été déclaré coupable de financement illégal de sa campagne en 2012. Nous sommes avec Franck Louvrier, qui était l'homme qui s'occupait de sa communication, aujourd'hui maire de La Baule. Bonjour Monsieur Louvrier.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous étiez présent, j'imagine, en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy était en meeting pour sa campagne électorale.
Oui, bien sûr, mais moi je m'occupais plus particulièrement de sa communication à l'Élysée, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on oublie parfois de le rappeler, il était président de la République, c'est-à-dire qu'il était loin de s'occuper de la lumière et du son. Qui peut imaginer que le président de la République puisse avoir ces préoccupations-là? Je n'ai pas toujours l'habitude de commenter les décisions de justice, surtout lorsqu'elles ne sont pas définitives, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que je vous rappelle aussi que Nicolas Sarkozy est innocent. La décision, en plus, a un appel, donc de ce fait-là, il n'y a pas de jugement définitif à porter sur cette décision.
Quel est votre sentiment quand même après ce jugement? Et on le rappelle depuis tout à l'heure, qui allait ou qui va au-delà des réquisitions du procureur.
Vous savez, Nicolas Sarkozy, il n'est pas ni au-dessus ni en dessous des lois françaises. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir le sentiment que son traitement n'est pas toujours celui d'un quidam. alors que ça devrait être celui d'un citoyen français comme les autres, même si aujourd'hui le traitement, qu'il soit médiatique ou autre, n'est pas toujours le même que celui d'un habitant de notre pays. Mais moi, mon sentiment sur cette histoire, c'est que d'abord, il n'y a eu aucun emballement dans cette campagne. C'est une campagne qui, dès le départ, savait où elle allait, et je l'ai vu avec distance, mais je l'ai vu très clairement et je l'ai rappelé plusieurs fois. C'était une campagne qui avait été réfléchie pour la simple et bonne raison, c'est que Nicolas Sarkozy avait bien eu l'intention de se représenter. Donc le fait qu'on explique qu'il y a eu des emballements, le fait qu'on explique qu'il y a eu des décisions de dernière minute, j'ai l'impression qu'on n'a pas vécu le même environnement, en tout cas le même contexte. Et donc, de ce fait-là, je pense que l'appel va être aussi important pour revoir la position juridique qui a été prise. En tout cas, on verra la suite. C'est sûr que ce feuilleton donne parfois le sentiment d'une forme d'épisode malheureux, mais ça devrait, j'espère, se terminer en décision sereine et définitive.
Vous avez gardé une proximité avec le président Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'avez eu ces dernières minutes au téléphone ?
Non, je ne l'ai pas eu ces dernières minutes, mais je l'aurai ces prochaines heures. Mmh. Mais en tout cas, je peux vous assurer que Nicolas Sarkozy est un homme qui à la fois sait ce qu'il fait et comment il le fait. Et donc, de ce fait-là, quand il se défend de façon très déterminée. En tout cas, il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette histoire. Et je peux vous assurer qu'il était loin de s'occuper des détails d'une campagne dans laquelle il était aussi président de la République et candidat.
Franck Louvrier, merci. Franck Louvrier, qui était l'homme de communication de Nicolas Sarkozy, durant longtemps d'ailleurs, même avant la présidence de la République, et qui est aujourd'hui maire élu de La Baule, maire républicain. Je ne vous interroge pas sur ce qui se passe aujourd'hui chez les Républicains, Franck Louvrier.
Non, mais je pense que vous aurez l'occasion de m'interroger souvent, parce que là aussi, c'est un feuilleton qui n'est pas terminé.
Vous savez pour qui vous allez voter ?
Pas encore, je réfléchis, on va regarder. Je pense que les deux candidats qui ne sont pas encore venus sur mon territoire, en Loire-Atlantique, vont venir, et donc à partir de ce moment-là, on pourra prendre une décision.
En même temps, ils ne sont pas aux Républicains, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on demande aux Républicains de voter pour Valérie Pécresse et pour Xavier Bertrand, qui ont quitté les Républicains.
C'est une preuve d'ouverture de la part du parti Les Républicains.
Je vois que vous êtes un homme de communication et que vous savez répondre à des situations qui sont parfois un peu paradoxales. Merci Franck Louvrier.
Merci, à bientôt.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il reste quelques minutes pour parler peut-être du pass sanitaire avec Caroline qui est maman de 7 enfants. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour Pascal.
C'est extraordinaire d'avoir 7 enfants.
Oui, oui, tout
combien
à fait.
De différence entre le premier et le dernier ?
11 ans et demi.
11 ans. Et en plus, vous avez eu 7 enfants en 11 ans.
Oui.
Vous êtes pas loin du livre des records, Caroline.
Non.
Quel âge a l'aîné ?
L'aîné a 24 ans, elle vient de se marier, et le dernier a 12 ans et demi.
Et là, a priori, on arrête.
Ah oui, là, c'est bien.
Il n'y a pas de huitième en...
Bon. Non.
Et alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que d'abord, tous vos enfants, vous avez combien d'enfants de 12-17, entre 12 et 17 ans ?
Entre 12 et 17, on en a 3.
Bon, est-ce qu'ils sont vaccinés ?
Non, aucun n'est vacciné, ni les plus grands.
Pourquoi ?
Ni les parents.
Ah, vous êtes une famille qui refuse le vaccin ?
Oui, tout à fait.
Pourquoi ?
Bon, parce que je pense que quand on regarde, certes c'est une épidémie, quand on regarde le taux de létalité, donc c'est ce qui est intéressant, il est quand même assez minime. Je ne cache pas du tout, la première vague surtout a été assez dramatique, terrible. Maintenant, on n'a aucun recul sur ce vaccin qui est en phase 3, donc c'est-à-dire encore une phase expérimentale. Et puis, ça n'est pas un vaccin, il faut le dire, c'est une thérapie génie, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on attend un vrai vaccin, et puis on verra. Je pense parfaitement inutile de faire vacciner les jeunes. Voilà. Et nous, on ne se trouve pas... on ne voit pas la nécessité de se faire vacciner. Moi, je vais vous dire, je l'ai eu, le Covid. Je l'ai eu l'année dernière. Personne ne l'a attrapé à la maison. Voilà, j'ai été toute seule à l'avoir. Voilà, c'est vrai que j'ai été mal pendant 4 jours, je reconnais. Mais voilà, c'est... Bref, mais c'est pas le sujet, en fait. Enfin, si, c'est un peu... lié au sujet, moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le pass sanitaire pour les enfants. Alors les enfants n'ont pas besoin de pass sanitaire pour aller à l'école, Dieu merci, parce que ça a été quand même très très difficile, ces périodes de scolarisation à la maison, et surtout très délétères pour tous. Mais on leur interdit aujourd'hui l'accès au sport. Donc moi, mes enfants faisaient du sport, certains faisaient de la musique. Cette année, nous n'avons renouvelé aucune inscription. Donc on fait des économies dans un certain sens, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est l'équilibre de nos enfants. Moi, mon petit bonhomme de 12 ans et demi, à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus aller au stade. Le stade dans ma commune...
Vous avez parfaitement raison. Enfin, il peut aller, mais il faut qu'il se fasse contrôler.
Oui, non, mais c'est ça, c'est stupide. Le stade dans ma commune, c'est grand. Les enfants ne sont pas les uns sur les autres. En classe, ils sont 25 dans leur classe. Et voilà. Allô ?
Oui, je vous entends.
Oui, pardon, ça a coupé, pardon. Et voilà, et ça n'est pas normal. Mon garçon de 17 ans, et Dieu sait qu'à cet âge-là, ils ont besoin de, pour canaliser leur énergie, de faire du sport, de se défouler. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils voulaient reprendre le judo.
Et c'est difficile. Caroline, comme il est 14h24, que votre témoignage est intéressant, je vous propose de revenir demain pour continuer cette discussion sur le pass sanitaire. 14h24, le débrief, Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, l'ancien chef de l'État a été déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. Une décision incompréhensible pour Véronique.
On lui reproche d'avoir dépassé effectivement les comptes de campagne. Bon, je pense qu'il y en a d'autres qui le font. C'est pas un crime. Bon, effectivement, c'est interdit par la loi. Mais bon, on ne l'aime pas. On veut surtout pas qu'il revienne sur la scène politique. Parce que là, ça va lui faire des casseroles. Donc c'est bien pratique. Hein. C'est comme Zemmour. Allez hop, on essaye de l'éliminer.
Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation. Ce qui est sûr, c'est que Jackie ne porte pas dans son cœur l'ancien président.
Cet homme-là se croit au-dessus de tout. Il est orgueilleux, il est prétentieux, il n'a aucun recul, mais je vous dis les choses.
Et Jackie, j'ai l'impression que tout le monde a déjà un avis sur Sarkozy avant de connaître le sujet.
Et sinon, nous avons prévenu la direction de RTL, il est l'heure de faire des économies d'énergie.
Alors, je le dis pour les dirigeants d'RTL, nous venons de baisser l'électricité du studio. Donc je pense qu'on dépense moins de kilowatt-heure. On est dans le noir.
On ne voit plus grand-chose d'ailleurs.
Mais il n'y aura pas grand-chose à voir.
Heureusement, Damien Béchoua a rallumé. C'est l'heure du déjeuner. Nous avons une passion pour un plat en particulier. Un échange d'une autre dimension. Vous allez l'entendre s'installer avec Monsieur Boubouk.
Cordon bleu, je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle qui m'a vraiment beaucoup intéressé parce que je la trouve révélatrice du moment présent.
Ah, mais c'est très très bon.
Bah, qu'est-ce qui est bon ?
Bah, le cordon bleu.
Ah oui, vous aimez ça ?
Bah, pas vous ?
Bah, oui.
Mais encore, dites-nous en plus sur cette actualité concernant le cordon bleu.
Le cordon bleu est un peu le fer de lance des produits alimentaires ultra transformés et à ce titre, il n'a plus de raison d'être dans les menus des élèves lyonnais.
Très bien.
Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, écoutez, Pascal, moi, tant que je peux avoir mon cordon bleu au marché... Ah oui, non, mais moi, je ne pense qu'à moi, non, mais c'est sûr. Hein.
D'accord.
Voilà.
C'était vraiment très intéressant.
Mais attendez, où veut en venir Monsieur Boubou ? Qu'attend-il pour relayer les messages sur les réseaux sociaux ?
Vous avez autre chose à nous dire ?
Non, mais écoutez, Pascal, tout va bien. Les factures d'électricité, je m'en occupe pas, donc voilà, j'apprends.
Mais je vous interviens... Il n'y a personne qui a parlé sur Facebook ?
Les réseaux sociaux, on y va, oui. Non ?
Bon, Jean-Alphonse Richard, vous qui présentez l'heure du crime, que m'arrivera-t-il si on vous rend l'antenne une nouvelle fois avec du retard ?
Je vais voir si je vous envoie sur les roses ou pas.
Ah, charmant. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui résume nos factures d'énergie en ce moment.
Il ne manque pas d'énergie, il y a toujours de l'électricité lorsqu'il parle. Monsieur Jean-Alphonse Richard, j'arrête là.
Eh oui, pour l'heure du crime. Avec Amanda Knox aujourd'hui. Est-ce la Luciferia au visage d'ange ?
Oui.
Vous allez moins rire dans un instant, vous allez voir.
Pas drôle du tout. À demain et à tout de suite.